plaît, on va aller dans Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 22. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 22. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui, « Christ est la substance des ombres » du système judaïque. Alors, si vous avez suivi le développement au cours des dernières semaines, on a vu que tout ce système-là était une ombre, était un type, était des symboles de la venue future de Christ, de sa personne et de son œuvre. Alors, quand on dit ici, Christ est la substance, ça c'était les ombres, mais on sait qu'il y a une différence entre une ombre et une réelle personne. Ça, c'était l'ombre. Et maintenant que la substance, que la personne de Christ était venue et que cette personne-là avait accompli son œuvre, qu'elle était maintenant retournée au ciel, il était temps de passer à autre chose. Alors, on va regarder trois points dans ce passage-là. La substance à cause de son efficacité, dans les versets 11 à 14. La substance à cause que Christ est le médiateur, dans le verset 15. Et la substance à cause de la nouvelle alliance, dans le verset 16 à 22. Dans le chapitre 8, il y avait, au verset 6, quelque chose d'important, qui avait été avancé aux Hébreux. Alors, ça disait, mais maintenant, il parle de Christ, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, on est dans le passage où on nous dit que Dieu avait donné une alliance au peuple qui avait un but, qui avait une raison particulière jusqu'à la venue de Christ. Quand Christ était venu, la première alliance était annulée, cancellée, ôtée, remplacée par la nouvelle qui lui était infiniment supérieure. Alors, les Juifs qui étaient convertis au christianisme se devaient de répondre à des objections qui leur étaient amenées par leurs opposants, qui, eux, étaient encore attachés à l'ancien système judaïque. Et quelles étaient les objections qu'ils leur amenaient? Ils leur disaient, « Vous dites que vous avez un nouveau sacrificateur. Qui est le souverain sacrificateur? » Il n'y avait personne devant les yeux, il n'y avait pas de personne physique. Christ était venu, il était le souverain sacrificateur, mais maintenant, il était maintenant rendu au ciel, ressuscité et assis à la droite du Père. Mais alors, eux pouvaient leur dire, « Oui, mais qui est où? Il est où votre souverain sacrificateur? Qui? Il est qui? » La deuxième question qu'ils pouvaient leur amener comme objection, c'est « Dans quel tabernacle administre-t-il son office? » L'ancien sacrificateur, dans l'Ancien Testament, il y avait la fameuse tente, qu'on a vu dans l'étude du tabernacle. Et le souverain sacrificateur entrait tous les jours dans la partie sainte. Et dans la partie très sainte, il fallait qu'il rentre uniquement une fois par année et pour verser du sang sur le propitiatoire. Vous souvenez-vous du propitiatoire, le couvercle d'or, il versait du sang sur le propitiatoire et il le versait pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. On sait que Christ, n'ayant pas de péché, le sang... Alors, ici, ce qu'ils veulent savoir, dans quel tabernacle administre-t-il son office? On va voir que le tabernacle, c'était son propre corps. On va voir tantôt que, des fois, il y a des idées quand on lit là-dedans et qu'on fait le parallèle entre le tabernacle de l'Ancien Testament dans Exode 25 à 40 et qu'on fait... Et ici, dit... Il est où votre tabernacle? On ne le voit pas, votre tabernacle. Et là, c'est ça, l'auteur est en train de leur expliquer quelle est la nature du tabernacle du nouveau souverain sacrificateur que Jésus-Christ. Et la troisième objection, c'est quels sont les services qu'il performe qui correspondent à ceux administrés par Aaron et ses successeurs dans le sacrifice, dans le système sacrificiel judaïque. C'est qu'eux, ils voyaient des choses. Le souverain sacrificateur, le sacrificateur rentrait dans la partie sainte, s'occupait du chandelier, s'occupait de changer les tables de paix de proposition, s'occupait de faire brûler des parfums devant le rideau qui séparait le Saint des Saints. Une fois par année, le sacrificateur. Alors, ils voyaient les choses. Et là, ce qu'ils veulent savoir, eux autres, ceux qui sont attachés au judaïsme, mais vous, votre souverain sacrificateur, quel service il fait qui corresponde à ceux que nous voyons avec nos propres yeux? Alors, c'est important qu'ils puissent répondre à ça, parce que s'ils ne pouvaient pas répondre à ça, pour les Juifs, ça n'avait pas grand valeur. La quatrième objection qu'il aurait pu amener, comment les services accomplis par Christ sous la Nouvelle Alliance surpassent-ils ceux d'Aaron et de ses successeurs? Si tu disais faut abandonner l'ancien système, faut adopter le nouveau, fallait que tu leur montres que ce que tu voulais leur faire adopter, c'était supérieur. Et pas juste un peu, infiniment supérieur. Alors, c'est toute l'idée du texte de 11 à 22 va dans cette direction-là pour essayer d'expliquer aux Juifs qui avaient encore des objections concernant lâcher l'ancien système, adopter la nouvelle alliance, parce que Christ était la substance de la nouvelle alliance. Alors, ce qu'on va regarder dans le premier point, la substance à cause de son efficacité, versets 11 à 14, on va essayer d'identifier et de comprendre qui était le nouveau tabernacle. On a dit qu'il y avait cette question-là qui se posait. Dans le verset 11, ça dit, « Mais Christ est venu. » Oui, il était venu, il était déjà parti. Comme souverain sacrificateur, alors son rôle ici est clairement établi, il est venu comme souverain sacrificateur, des biens à venir, c'est à quoi les biens à venir? La vie éternelle, le pardon des péchés, la justification, l'adoption, etc. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Voyez-vous, l'Ancien Testament, quand Moïse avait construit le tabernacle, il avait reçu les instructions de la part de Dieu lui-même sur la montagne, et ça, il avait pris 40 jours pour lui donner tous les détails. Ça avait été construit par des hommes, il y avait des poteaux, il y avait des tentes, il y avait des toiles, il y avait de l'or, de l'argent, il y avait de l'airain, et toutes les choses avaient été symboliques. Et il est en train de dire que Christ ici, son tabernacle n'a pas été construit de main d'homme. De quoi il parle quand il dit ça? Le tabernacle, pour Christ, c'était sa chair. Quand il est venu sur la terre, il était l'homme-Dieu, Dieu habitant une chair d'homme. Et sa chair, on va le voir dans des versets aussi du Nouveau Testament, sa chair, c'était son tabernacle. Alors, le Christ avait reçu l'autorité de devenir souverain sacrificateur de Dieu, le Père lui-même, et ceci avec serment pour démontrer l'immuabilité de son décret. On lit, par exemple, dans le psaume 2, verset 7, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et on l'a répété souvent dans le cours des leçons précédentes, là, le fameux psaume 110, verset 4, « L'Éternel a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour une journée, pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Il fallait que les Juifs réalise que la décision que Jésus devienne souverain sacrificateur, ça avait même été avant qu'Aaron commence à faire son ministère de judaïque, comme on voit dans le tabernacle. Bien avant, parce que ça avait été pris dans l'éternité. Dieu le Père avait décidé que son Fils serait souverain sacrificateur. Le tabernacle de Christ était son propre corps. Ça, c'est un peu difficile à saisir, mais c'est pas si difficile que ça. Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair. » Quand on dit la parole, c'est qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ a été fait chair. La parole de Dieu, la seconde personne de la Trinité, a été faite chair et elle a habité. Habité. Le mot pourrait se traduire par tabernaclé. Son corps devenait le tabernacle dans lequel il agirait. Parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Colossiens 2:9. Ici, on parle de Jésus-Christ dans le contexte. Car en lui, en qui en lui? Lui, c'est qui? Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, la personne de Christ, quand il est venu sur la terre, il y avait un corps d'homme, mais ce corps d'homme-là était habité par toute la plénitude de la divinité. Tout ce qu'on connaît sur Jésus, sur Dieu le Père, sur Dieu le Saint-Esprit, était présent dans son corps. Pas pour rien, on l'appelle l'homme-Dieu. Il était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Et voyez-vous, pour vous confirmer que c'est les Écritures elles-mêmes qui disent que le tabernacle, c'était son corps, on n'est pas rendu là, mais on va aller dans Hébreux 10, versets 19 et 20. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Le sanctuaire, c'est à quelle partie? La partie très sainte. À cause du sang de Jésus, lui pouvait entrer lui-même et il nous faisait par le fait même entrer dans la partie très sainte. Et gardez le verset 20. C'est le verset 20 qui dit que c'est pas une invention que j'invente un matin en disant que le tabernacle pour Jésus, c'était son propre corps. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Quand Jésus est mort sur la croix, on se souvient dans Matthieu 27, 51, je me souviens bien, le voile du temple, qui était encore le vieux temple de Jérusalem, s'était déchiré de haut en bas. Et c'est au moment précis de sa mort que ce fameux voile du temple s'est déchiré. Il faut voir la correspondance que quand Jésus est mort, son corps, son sang entrait sur sa divinité. Sa divinité, le fameux propitiatoire, voyez-vous. Sa chair était, quand sa chair s'est brisée, il est mort, c'est comme le sang de sa personne, qu'il y avait dans sa personne, tombait sur sa divinité. Parce que c'était ouvert. Alors l'humanité de Christ n'avait pas été construite de main d'homme, comme ça dit dans le texte. Rappelons-nous, dans Matthieu 1, 18, que ça nous dit que le corps de Jésus, quand il est venu au monde de Marie, il n'était pas le fruit de l'union d'un homme et d'une femme. Il était le fruit de l'ovule de la femme, mais fécondé par l'Esprit de Dieu lui-même. Parce que s'il avait été le fruit de Joseph et de Marie, il aurait été un pécheur et il aurait été incapable d'accomplir l'œuvre de rédemption que Dieu lui demandait de faire. Alors, il fallait que sa chair, quand elle venait au monde, qu'elle n'ait pas de péché. Alors, ça nous dit dans Matthieu 1, 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » C'est très important de réaliser ça parce que si on dit que... Parce qu'aujourd'hui, il y a des théologiens, malheureusement, là, qui disent que Jésus était fort probablement le fils de Joseph parce qu'il ne croit pas au côté miraculeux de cela. Et dans Matthieu 1:23, c'est-à-dire, c'est la prophétie que Jésus viendrait. « Voici, la Vierge sera enceinte. » Il parle de la Vierge Marie. « Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Et ici, si les Écritures dans le Nouveau Testament ne nous auraient pas dit qu'est-ce que ça signifie, on aurait pu le trouver pareil, parce que dans l'Ancien Testament, Emmanuel, en hébreu, ça veut dire « Dieu avec nous ». Par la naissance de Christ, Dieu lui-même entrait dans le monde, mais dans une chair d'homme. Son tabernacle, son voile, c'était le voile qui permet. Les gens ne voyaient pas sa divinité parce que c'était sa chair qu'il cachait. Un roi, chapitre 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Ici, il est en train de nous parler de la grandeur de Dieu. Il dit que si tu prendrais tout l'univers, le ciel et les cieux des cieux, il dit, Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas être contenu dans sa création. Il dépasse sa création. Et ici, c'est en train de nous dire que Dieu le Père a permis que toute la divinité rentre dans une... Voyez-vous, Dieu ne peut pas rentrer dans sa création parce qu'il est au-dessus, mais ici le texte nous dit que Dieu a permis que sa pleine divinité entre par le corps de Jésus. C'est un peu difficile à saisir, hein? Parce que si la divinité ne peut pas être contenue dans la création... Et là, il est en train de dire que maintenant, il a permis que toute la divinité soit incluse dans le corps de Jésus. Il n'y a rien que Dieu qui est capable de faire ça. Alors, il faut voir la grandeur de l'événement qui se passait à l'incarnation, quand on appelle la naissance de Jésus. Alors, le tabernacle de Christ était son corps. La dignité, la valeur et l'usage de ce corps-là étaient appropriés parce que le corps de Jésus habiterait toute la plénitude de sa divinité et serait le moyen par lequel son office sacerdotal pour le péché s'effectuerait. Si Christ n'aura pas eu une chair d'homme sans péché, la rédemption n'aurait pas pu arriver. Alors il fallait, sans doute Satan, quand il a fait chuter l'homme, il devait passer, il n'y a rien à faire, j'ai réussi, l'humanité est faite à jamais, ils vont tout aller en enfer, la gang. Il n'a pas pensé à la sagesse de Dieu. Il n'a pas pensé à la sagesse de Dieu. Alors, Christ était l'antitype du tabernacle du système judaïque. Le système judaïque, là, voyez-vous, c'était une tente, ça mesurait les coudées 10 par 10, 30, 10 par 30, et c'était assez gros. Mais là, il est en train de nous dire, tout ça, là, ça l'avait pour but de présenter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. On va lire Hébreux 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Il parle de qui? Il parle du Père, de l'Esprit. Il dit, les sacrifices puis les offrandes dans l'Ancien Testament, il dit, « Tu ne les as pas agréés. » Jusqu'à, en tout cas, il faudrait expliquer un peu plus en détail. « Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Il était couvert, il n'était pas vraiment ôté. Alors j'ai dit, qui parle quand il dit j'ai dit? Jésus lui-même. Jésus lui-même dit, alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Dans le rouleau du livre, de quoi il parlait? Il parlait de les Écritures de l'Ancien Testament, parlait qu'il viendrait éventuellement. Dans le rouleau du livre, dans la Bible, il était écrit qu'il viendrait éventuellement accomplir son œuvre de rédemption. Verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il établit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit ainsi la première alliance pour établir la seconde, la nouvelle alliance. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Voyez-vous la folie de vouloir faire des messes et d'offrir le corps du Christ continuellement? Il dit qu'il l'a fait une fois pour toutes, non pas une affaire à recommencer ça. C'est clair, M. de Roche. J'ai de la misère à ceux qui ne comprennent pas ça, mais en tout cas. Versets 12 et 13. Et il est entré. Qui ça? Il, Christ. Une fois pour toutes. Donc, il n'est pas entré pour recommencer ça tous les jours. Il est entré où? Dans le lieu très saint. non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption, voyez-vous, le mot est important, une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, voyez-vous, ici on parle de l'Ancien Testament où on prenait un animal, on l'égorgeait, on le brûlait sur l'autel d'airain. Mais là, il ramène une autre expression. Il parle de la fameuse vache, la cendre d'une vache. Et là, si on ne va pas dans l'Ancien Testament, et si on ne va pas essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il mentionne ça? Il mentionne que les sacrifices du système judaïque étaient égorgés, tués, vidés de leur sang. On prenait le sang, on l'emmenait dans le tabernacle. Et il dit, et la cendre d'une vache. C'est le fameux passage dans Nombre 19, versets 2 à 17. On n'ira pas lire ça ce matin. Je ne veux pas aller trop dans les détails, parce que comme je vous disais, lui, Owen, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en va dans Nombre 2, dans Nombre 19, c'est-à-dire versets 2 à 17, et il développe tout le symbolisme de la cendre de la vache rousse. Il faisait brûler une vache, prenait la cendre, il fallait qu'il la mélange avec de l'eau, et c'était quelque chose avec lequel il pouvait se purifier, mais le corps, pas l'âme, le corps. C'est pour ça qu'il dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, là il recule dans l'ombre, et il dit, répandu sur ceux qui sont souillés. Alors, la façon de se souiller dans ce temps-là, c'était que si tu touchais un mort, tu ne pouvais pas participer au culte parce que tu étais souillé. Et il y avait bien d'autres choses, tu pouvais te souiller. Et la façon de se purifier, c'était avec ça. La cendre d'une vache. Pourquoi la cendre? Qu'est-ce que ça représente? Quand quelque chose est brûlé, est-ce que ça ne représente pas le jugement? Mais elle est avec de l'eau. L'eau représente quoi dans le Nouveau Testament? Le Saint-Esprit. Alors, c'est vraiment l'idée du jugement et du Saint-Esprit qui était... Mais c'était, à l'époque, c'était vraiment pour le corps, mais le symbolisme de ça est frappant quand on le compare avec le Nouveau Testament. Quand on parle du sang de Christ, avec son propre sang, le sang de Christ est une expression qui comprend tout ce qu'il a souffert pour notre rédemption. Quand Christ est venu, durant toute sa vie terrestre, il a beaucoup souffert, mais l'endroit où il a le plus souffert, c'est sur la croix, bien entendu. Parce que sur la croix, il subissait le châtiment qui aurait dû être le nôtre à notre place. Et c'est quand on parle du sang, bien entendu, le sang, dans l'Ancien Testament, on disait, l'âme est dans le sang, dans Lévitique. L'âme de Christ était dans son sang. Et son âme, lui, n'avait jamais péché. Et quand l'âme de Christ, qui était dans son sang, est tombée sur sa divinité, c'était parfait. Et ça comprenait l'ensemble des souffrances qu'il a subies pour nous à notre place. Alors, quand on dit le sang de Christ, il est entré avec son propre sang. Et là, ça nous dit qu'à cause du fait qu'il a fait ça, il a obtenu quelque chose de Dieu le Père. Une rédemption éternelle. Qu'est-ce que ça signifie le mot rédemption? Racheter quelqu'un dans le sens spirituel signifie de libérer une personne de son état d'esclavage par le paiement d'un prix approprié. Dans l'ancien temps, alors que les systèmes d'esclavage existaient, ils emmenaient les esclaves sur un marché public, et là, il arrivait les personnes riches de l'époque, ils disaient, ils regardaient un petit peu, bon, OK, lui, je le prends. Mais il fallait qu'il paye. Il payait quelqu'un, donc en payant quelqu'un, il se trouvait à s'approprier la personne. Il libérait de son marché d'esclavage. Il devenait maintenant le serviteur de celui qui l'avait acheté. Alors, dans le sens spirituel, quand Dieu dit qu'il nous a rachetés, il a payé le prix pour nous sortir de l'esclavage de quoi? L'esclavage du péché, l'esclavage de Satan. Et il a payé le prix, et le prix était la souffrance qu'il a subie sur la terre et sur la croix. Et le fait aussi qu'il a accompli la loi à notre place. Pour obtenir la rédemption éternelle, il fallait que le Christ rencontre les quatre choses suivantes. Qu'il fasse, premièrement, l'expiation des péchés des élus. Deuxièmement, que le juge suprême accepte. Troisièmement, que la loi soit satisfaite. Ses préceptes accomplis à la perfection. Et la punition attachée à sa désobéissance soit endurée et que la malédiction soit enlevée. On revient un petit peu là-dessus. Et la quatrième chose, c'est que le pouvoir de Satan soit annulé. Donc, on était sur le marché de Satan. C'est lui qui nous dominait, c'est lui qui nous menait comme il voulait. On était ses esclaves avant d'être sauvés par Jésus-Christ. Et en nous rachetant, il nous enlève de son pouvoir et il nous donne maintenant l'Esprit de Dieu pour être capable de combattre. Mais je reviens sur que la loi soit satisfaite. Parce que c'est le nœud, c'est le cœur de l'Évangile. Si on comprend ça, on a compris un grand bout du salut. Quand on parle que la loi soit satisfaite, de quelle loi on parle? On parle du décalogue. Et pour les Juifs, c'était plus que le décalogue, c'était à la fois le décalogue, les lois cérémonielles et les lois civiles. Quand Jésus est venu, il n'a pas obéi uniquement à la loi morale, il a obéi aussi pour les Juifs, parce que les Juifs étaient encore sous la loi, il a obéi, parce que quand il disait de se faire circoncire le huitième jour, c'était des lois pour les Juifs, nous on ne se fait plus circoncire le huitième jour. Alors, il avait accompli la loi dans toutes ses dimensions, morale, civile, cérémonielle. Quand on parle des préceptes de la loi, il fallait que, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, Dieu avait donné les 10 commandements. Et les 10 commandements, les gens, à l'époque, les pharisiens, quand Jésus est venu, avaient la prétention qu'ils obéissaient. Paul l'a dit lui-même, il se pensait bien bon, là, qu'il avait tout obéi à ça. Mais relisez Matthieu 5 à Matthieu 7, qu'on appelle le sermon sur la montagne, où le Christ vient expliquer jusqu'à quel point les préceptes de la loi sont exigeants. Il nous dit que nos péchés, ça se limite pas aux actes extérieurs qu'on fait. Ça va jusque dans nos pensées. Si dans ma pensée, je fais l'adultère, parce qu'on peut très bien faire l'adultère dans notre pensée, le Seigneur il dit, c'est aussi grave ça que le faire dans la réalité. Oh, là, ça ne marche plus. Là. Les Juifs, là, peut-être qu'il y en avait qui ne l'avaient jamais fait avec la femme du voisin, mais dans leur tête, ils l'avaient peut-être fait 1000 fois, et ils voulaient leur faire comprendre que si tu l'as fait dans ta tête, c'est comme si tu l'avais fait en réalité, tu es aussi coupable devant Dieu que si tu l'avais fait en réalité. Donc, les préceptes de la loi, ce qu'il a fait quand Jésus est venu, c'est qu'il a pris les commandements, le décalogue, dit « Vous avez entendu qu'il vous a été dit, moi je vous dis. » Il vient leur expliquer la profondeur, la largeur et la portée de la loi qui était bien au-delà de leur capacité d'obéissance. Mais Dieu avait jamais enlevé ses exigences envers chacun de nous. Pour pouvoir vivre en sa présence, il faut soit qu'on l'ait fait personnellement, ou soit que quelqu'un l'ait fait à notre place. Et c'est ça la beauté de l'Évangile, c'est que les Écritures nous disent que quand on croit que Jésus l'a fait à notre place, Dieu considère comme si on l'avait fait nous-mêmes. Voyez-vous, c'est tellement merveilleux l'Évangile. Parce que les préceptes, on ne peut pas, il n'y a aucun homme qui a jamais obéi à parfaitement la loi. Jamais aucun homme sur la terre. Et ce n'est pas possible non plus. Parce que les Écritures nous disent que la loi, le décalogue, nous a été donné comme un pédagogue pour nous enseigner qu'on n'est pas capable. Parce que plus quelqu'un va essayer d'obéir à la loi, plus il va se rendre compte que ça ne marchera pas. Il n'a pas la capacité, il n'est pas capable de le faire. Mais c'est justement le but de l'exercice. Il veut t'emmener à te montrer que mes exigences sont tellement élevées, petit bonhomme, que tu n'atteindras jamais ça. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place. Alors ça, c'est l'obéissance préceptive. Quand Jésus est venu sur la terre, il a obéi au Père dans le décalogue, dans les 10 commandements et aussi dans les lois cérémonielles et civiles à la perfection. Il n'a jamais eu une idée croche. Il n'a jamais dit une parole croche. Il n'a jamais fait quoi que ce soit de croche. Il n'a jamais omis quelque chose que le Père voulait. Il n'a jamais eu quelque faute secrète. Perfection sur toute la ligne. Ça, c'était le préceptif. Maintenant, le Seigneur nous disait, si tu désobéis au décalogue, on a tous fait le moindre de nos petits, plus petits péchés, des fois on compte une petite menterie. Tu sais comment on est, hein? Une petite menterie, oh, c'est pas grave, c'est pas de conséquence. Pas de conséquence peut-être pour toi parce que tu le vois pas. Mais Dieu, dans sa sainteté absolue, le plus petit de tes péchés t'aurait valu d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Là, on voit la gravité du péché et on voit l'infinie sainteté du Seigneur. Alors, Quand le Seigneur nous regarde comme pécheurs, il voit absolument tous les péchés qu'on a fait dans notre vie. Dans nos pensées, si je disais au Seigneur, montre-moi tous mes péchés que j'ai fait dans ma pensée depuis que je suis au monde, Et ensuite, il me dirait, montre-moi tout ce que j'ai dit de pas correct. Montre-moi toutes les actions que j'ai faites qui sont en contradiction avec ce que tu m'as commandé. Montre-moi mes fautes. Et non seulement ça, mais il y a des fautes secrètes et les fautes d'omission. Ça, les fautes des omissions, là, on ne les voit pas. Parce que les Écritures nous commandent une multitude de choses. Mais quand on ne les fait pas, quelqu'un ne nous dit pas, « Oh, ben regarde, tu vis dans le désordre, ta vie morale à vos zéros. » C'est des choses qu'on n'accomplit pas. Mais aux yeux de Dieu, ne pas obéir à ses commandements, c'est comme aussi grave qu'un péché de commission. C'est bien important de faire la différence entre les deux. Péché de commission, c'est ce qu'on commet, pensée, parole, action. Ceux d'omission, c'est ce que Dieu, les choses qu'il nous commande, qu'on ne fait pas. Et on est plein de péchés, on est bourré jusqu'aux oreilles, comme on vraiment dit. C'est comme quand tu soulèves une pierre, ça fourmille de vie, hein, ça sort la vermine, qu'on peut dire. Mais nous, on est pareil. Si quand Dieu rouvre, il nous regarde, il nous voit, il voit toute la vermine qu'il y a en nous. Alors, si chacun des péchés, même le plus petit, nous valait d'être plongé vivant dans le lac de feu, et qu'on en a fait des milliers, et dans certains cas, des millions, comment pouvons-nous nous en tirer? Parce que chacun de ces péchés-là nous valait une punition éternelle. Et plus on en a fait, plus la punition éternelle était profonde. La Bible nous dit que quand Dieu nous fait grâce, il nous pardonne toutes nos fautes passées, celles d'aujourd'hui, parce que même aujourd'hui, on va en enfer. Et demain, et après-demain, jusqu'à notre mort, jusqu'à temps qu'on rentre dans sa présence. Tout pardonné. C'est-tu une belle bargain, ça? Ce qui est ses exigences qu'il nous demande, tu as un autre qui l'a fait à la perfection, il dit, si tu crois, je vais te donner comme si tu l'avais fait toi-même, et si tu crois, toutes tes fautes qui t'auraient valu une punition X, parce que personne n'aurait eu la même punition ici, plus on a fait de péché, plus notre punition aurait été profonde, mais elle aurait été pour l'éternité. Imaginez-vous, plongé dans le lac de feu pour l'éternité, pour l'ensemble de nos fautes, on ne se rend pas compte, hein, mes amis. C'est pour ça que je veux éventuellement revenir avec une série sur l'enfer, parce que on a besoin de se faire rappeler c'est à quoi l'enfer. Puis c'est là qu'on s'en allait. Le Seigneur l'a dit, vous êtes plongés dans la géhenne. Quand il parle de la géhenne, il parle de l'enfer. Il leur disait aux Juifs que c'est là qu'ils s'en allaient s'il n'y avait pas de repentance, s'il n'y avait pas de la grâce. Alors ici, il est en train de nous dire que Jésus, quand il est venu, il a obéi à la loi, il a satisfait le côté, ce qu'on appelle l'obéissance préceptive. Il a obéi à tous les préceptes des 10 commandements. Et plus pour les Juifs, parce qu'il y avait la cérémonielle et la civile qui s'ajoutaient. Et il a obéi aussi dans le sens qu'il a accepté de subir nos châtiments personnels, le mien, le vôtre, à votre place. Imaginez-vous, c'était pas une petite affaire là, sur la croix. Là. C'était énorme. Il faut comprendre ça. Parce que là, on apprécie le salut plus à ce moment-là. Alors, l'entrée de Christ, on s'en souvient, dans le Saint des Saints, avait été effectuée au moment de sa mort sur la croix. Luc 23, verset 43-46. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il parle à un des voleurs qui s'était repenti. Juste avant de mourir, imaginez-vous, lui, il a échappé belle, puis c'est vrai, lui. Il était cloué sur une croix, puis au début, il chantait des bêtises au Seigneur, pas comme tous les autres. Et à un moment donné, le Seigneur lui fait grâce, juste avant, question de minute. Quand il a traversé l'autre bord, puis il est arrivé l'autre bord, là, lui, il a dû faire, « Alléluia! » Parce qu'il devait, comme là, comprendre de quoi il avait été sauvé. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Dans le verset 14, ça dit, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang des animaux purifiait et sanctifiait la chair de façon temporaire, externe et cérémonielle. Alors, un juif qui touchait un mort, par exemple, il y a beaucoup de choses par lesquelles il pouvait se souiller. Il ne pouvait pas aller au culte parce qu'il était souillé. Et la façon de se dessouiller, de se purifier, était par le sang des animaux ou par la cendre d'une vache qui avait été brûlée et qui était mélangée avec de l'eau. Donc, Jésus nous dit, c'est en s'offrant lui-même, Christ obtient l'enlèvement définitif de la culpabilité et de la pollution due au péché. Son offrande, qui était lui-même, était parfaite. Il était sans péché et impeccable. Il était parfaitement saint dans sa nature et dans son caractère. Il était l'excellence morale. Il avait parfaitement accompli la loi dans ses préceptes et dans sa punition. Les élus, donc, se voient libérés de leur sens de culpabilité. Ils recevaient la parfaite paix. Ils pouvaient dorénavant entrer avec assurance dans la présence même de Dieu. Ils devenaient ainsi de joyeux adorateurs et serviteurs, parce que la conscience est le siège de la culpabilité du péché. Dans le verset 15, maintenant on passe au deuxième point, la substance à cause du médiateur, dans le verset 15. Le médiateur d'une promesse divine, il faut se souvenir de ça. Ça dit dans le verset 15, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Vous êtes en train de nous dire que les péchés qui avaient été faits sous la première alliance étaient pardonnés à cause que Christ est venu. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Dieu avait promis la délivrance du péché par l'envoi d'un libérateur, qui était le Messie. Ça commence en Genèse. Il faudrait prendre toutes ce qu'on appelle les alliances et développer ça, mais on va juste effleurer le sujet un peu. Genèse 3,15, quand il dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On lit, par exemple, dans Galates 3, versets 15 à 24. « Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est allumée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Ça, c'est bien important de saisir ça. Les promesses ont été faites à quelqu'un, mais pas à sa postérité et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La promesse faite à Abraham, c'était sa postérité, c'était la personne même de Christ. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Voyez-vous ce qui est arrivé? La promesse avait été faite avant que la loi soit donnée. La loi a été donnée 430 ans après que la promesse a été faite à Abraham. Il est en train, ici dans Galates, il est en train de montrer aux Juifs que ce que Dieu a promis, pas parce qu'il a donné une loi que ça annule la promesse qui avait été faite 430 ans auparavant. Dans le verset 18, il dit, car si l'héritage venait de la loi, autrement dit, si notre salut venait de notre obéissance à la loi, elle a été donnée, elle ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham de ce don de grâce. Pourquoi donc la loi? Voyez-vous, ici, il nous explique pourquoi la loi a été donnée, pourquoi le décalogue a été donné. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse a été faite. Quelle était la postérité à qui la promesse a été faite? Christ. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi, donc, est-elle contre les promesses? Il est en train de vouloir montrer que est-ce que la loi, ça rentre en conflit avec la promesse de Dieu qui avait été faite dès Genèse 3,15? Là, il répond, loin de là, s'il eût été une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Voyez-vous, verset 24 nous dit le but des 10 commandements. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un enseignant, pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi et non pas par l'obéissance à la loi. Christ, lui seul, a pu obéir parfaitement à la loi. C'est par la foi en lui qu'on obtient comme si on l'avait fait nous-mêmes. Il y a une expression qui est importante dans le verset 15 quand on parle du médiateur. Ça nous dit « ceux qui ont été appelés ». Vous, quand on lit le verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant venue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Autrement dit, il est en train de dire que les péchés qui avaient été faits sous la première alliance, dans le système judaïque, tous les péchés qui avaient été commis là-dedans, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, autrement dit, tu es en train de dire, l'œuvre de Christ s'applique aux élus, s'applique à ceux qui sont appelés de Dieu. L'expression, il dit, l'héritage va être donné à ceux qui sont appelés. Donc, c'est pas le salut universel, c'est vraiment le salut par grâce à ses élus seulement. Et ici, dans le verset 15, ici, c'est important parce que moi, j'avoue que je n'avais pas compris ça avant quelques jours. La question de, dans le même passage, on parle de alliance et on parle de testament. Et l'alliance, quand on parle de l'alliance trinitaire. À un moment donné, Dieu, dans l'éternité, il y a eu une entente entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour tous les détails qui concernaient la rédemption de ses élus, qu'on appelle l'alliance trinitaire ou l'alliance rédemptrice. Il y a bien des noms qu'on lui donnait, mais ça revient toujours au même. C'est l'alliance qui a été prise dans l'éternité entre les trois personnes divines. Quand on parle de l'alliance, dans le texte, on parle de ça. Mais aussi, on parle d'un testament. À cause du fait que Christ avait voulu accomplir ce qui avait été décidé dans l'alliance, lui, en mourant, c'est lui qui devenait le testateur. Un testateur, vous savez, c'est qui? C'est quoi? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il m'avait mis sur son testament. Je suis bien content d'apprendre ça. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va mourir. Mais je sais que je ne retiendrai jamais un sou de ça tant que la personne ne sera pas morte. Parce qu'un testament, on écrit nos volontés, puis si on décède, la personne qui va exécuter le testament va nous donner ce qui avait été écrit dedans. Mais Christ, en accomplissant ce qui avait été décidé dans l'Alliance, avait maintenant le pouvoir, par sa mort, de donner à ses élus les fruits de son travail. Alors, le testament, on ne pouvait pas entrer en possession de ces choses-là tant que Jésus n'était pas mort. Alors, l'Alliance de rédemption, c'est l'entente entre les trois personnes de la Trinité pour effectuer la rédemption des élus en envoyant Christ pour servir de médiateur entre les pauvres pécheurs et la terrible majesté du Dieu qu'ils ont offensé. Une condition de cette alliance était la mort du médiateur. Le Christ était aussi le testateur de ses propres cadeaux, la justification, la sanctification, l'adoption, la glorification et la vie éternelle. L'efficacité de son œuvre était rétrospective, comme ça nous dit dans le texte. Non seulement c'était pour les péchés, non pas juste à partir du moment qu'il est venu, c'était pour l'ancienne alliance aussi. Donc, quand il nous dit les transgressions commises sous la première alliance, c'était le côté efficace du côté rétrospectif, en allant vers l'arrière. Parce qu'il y avait eu beaucoup de péchés commis depuis que la loi avait été donnée. Et il dit que quand c'est Jésus qui est venu, donc l'effet de son œuvre s'est étalé aussi sur ceux qui avaient précédé sa venue. Et aussi prospective, c'est-à-dire pour les péchés à venir. Donc c'était pour tous les péchés, ceux du passé, ceux d'aujourd'hui, ceux de l'avenir, jusqu'à la consommation des siècles. Le troisième point qu'on va regarder, on va aller rapidement, la nouvelle alliance assure notre salut, versets 16 et 17, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. On le sait tous, si quelqu'un vous place votre nom sur un testament, vous n'obtiendrez pas ce qui est marqué sur le testament tant que la personne ne meurt pas. Et Jésus, ce qu'il dit, lui était le testateur, et tant que sa mort n'était pas arrivée, les fruits de son travail, les fruits de son rédemption n'étaient pas accessibles. Donc l'alliance de rédemption, qui était l'alliance, l'entente trinitaire, avait la nature d'un testament, en même temps qu'elle était Les Écritures nous disent que cette fameuse alliance-là qui avait lieu dans l'éternité, elle était sûre et ordonnée, qu'on lit dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 5. « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? » Qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre sur l'alliance qui avait été prise dans l'éternité entre les trois personnes? Il nous dit « en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité ». Quand on est dans l'alliance de Dieu, on ne manque pas notre coup. Et on sait qu'un testament, ça prenait des témoins. Dans les Écritures, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 7, dans la version David Martin, « Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là ne sont qu'un. » Donc, il y avait comme les mêmes conditions qu'un testament, il y avait des témoins. Et une des choses intéressantes, c'est que si quelqu'un met son testament, il ne met pas des conditions. Ça peut arriver qu'il en mette, là. Mais en général, quand on donne quelque chose à quelqu'un, il ne met pas, tu vas l'avoir si tu fais ci, si tu fais ça. Il y en a qui ont fait ça dans le passé, là. Mais dans le cas de Christ, c'était pas ça. Il nous a pas dit qu'on recevrait. Alors, il nous dit que qu'est-ce qu'il fallait pour s'approprier des choses du Christ? Il fallait la foi et la repentance. Est-ce que la foi et la repentance, ce sont des choses qui viennent de l'homme? Non. Les Écritures nous disent que la foi et la repentance sont des cadeaux de Dieu. Alors, pour recevoir l'œuvre de Christ et les bénéfices et les fruits de Christ, ce qu'il nous demandait pour qu'on puisse le recevoir, c'est lui-même qui nous l'a donné. Ça assurait qu'on le recevrait. Et autre chose qu'il nous rappelle dans le verset 18, c'est pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. L'alliance que Dieu fit avec le peuple à Horeb, quand ils ont reçu les 10 commandements, avait été inaugurée par du sang. C'était celui des animaux. Il en fut de même pour celui de la nouvelle alliance, celui de Christ. C'est important de réaliser ça parce que dans Exode 24, ça dit « Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. » Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, le lut en présence du peuple et ils dirent, le peuple, vous ne savez pas ce qu'il disait, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a ordonné et nous obéirons. » Quand tu lis l'Ancien Testament, tu aperçois que ça n'a pas été tout à fait le cas. Alors, il s'est dit, verset 8, « Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. » Il veut nous rappeler que la première alliance avait été inaugurée par du sang. Il est en train de nous dire que la nouvelle alliance, elle aussi, est inaugurée par du sang dans les versets 19 à 22. 19, ça dit « Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. » Si on ne prend pas le temps d'aller voir tout le symbolisme de ces choses-là, là, sang des boucs et des veaux, l'eau, la laine écarlate, l'hysope. C'est plein de symboles qui nous pointent vers Christ et c'est ça qu'Owen faisait. Il reprenait chacun de ces petites choses-là puis il retournait nous montrer qu'est-ce que ça nous enseignait sur Christ, le symbolisme que ça avait sur Christ. On le fera pas ce matin parce qu'on n'en sortira pas. Alors il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, sans effusion, le sang, il n'y a pas de pardon. Ce qu'il voulait nous montrer, pourquoi elle avait été inaugurée avec du sang, c'est parce que quand Christ est mort sur la croix, c'était sa chair, le tabernacle. Et quand il est mort, son sang est tombé sur sa divinité, parce que sa divinité est à l'intérieur de son corps humain. Et c'est vraiment la contrepartie de ce qu'on a vu quand on a étudié le tabernacle. Alors, on doit de se souvenir que Christ est l'antitype et toujours la personne de la personne et de l'œuvre de Christ. On se souvient très rapidement, on va passer, qu'est-ce que c'était un type des personnes, des événements ou des choses de l'Ancien Testament qui ont une réalité historique, qui véhiculent une intention divine d'enseigner, qui contient un élément prophétique et dont on trouve l'accomplissement par quelque chose de plus grand et de nettement et infiniment supérieur dans le Nouveau Testament, et qui est désigné comme tel dans le Nouveau Testament. Rappelons que dans la première alliance en Horeb, la moitié du sang avait servi à être répandu sur l'autel et l'autre moitié sur le peuple. L'autel, chose qui est assez difficile à saisir, mais faut qu'à un moment donné, faut réfléchir à ça. Christ était à la fois le sacrificateur, à la fois la victime et à la fois l'autel. Il était le sacrificateur parce qu'une personne marchait dans ce temps. Et il était la victime parce qu'on dit de lui qu'il était l'agneau de Dieu. Et il était l'autel parce que le couvercle du propitiatoire, c'est sa divinité. Alors quand il est mort, son sang est tombé sur sa divinité et c'était ce que Dieu demandait. C'est bien important d'essayer de réfléchir à ça parce que les premières fois, c'est pas évident. Le sang se devait d'être répandu et aspergé sur le peuple, signifiant que toutes nos bonnes œuvres, sans exception, ne sont pas acceptées et agréées par le Seigneur que par les mérites de Jésus-Christ. Pourquoi il mettait du sang sur le peuple? La première alliance, là, il a pris du sang, il l'a mis sur le livre, puis après ça, il l'a mis sur tous les ustensiles du tabernacle et sur le tabernacle lui-même. Puis après, il a pris, puis il l'a aspergé sur le peuple. Qu'est-ce que ça en enseigne? Que le sang de Christ nous enseigne que la Bible doit être lue en tenant compte du sacrifice de Christ, que toutes nos œuvres, s'ils n'étaient pas aspergées du sang de Christ, ne valeraient rien aux yeux de Dieu. C'est pour ça que le sang est aspergé sur le peuple. 1 Pierre 1, verset 2, qui sont les élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, toutes les choses qui sont mentionnées dans le passage des versets 19 à 22 sont des types de Christ. Le sang des veaux et des boucs, l'eau, la laine écarlate, l'hysope, le tabernacle, les ustensiles du culte. On ne reprendra pas ça en détail, mais ce qui est important de souvenir, c'est que ces choses-là n'avaient de la valeur que si le sang de Christ avait été. Le sang, dans le temps, c'était les animaux, mais dans la Nouvelle Alliance, c'était le sang de Christ lui-même. Lors de l'inauguration du repas du Seigneur, à la veille de sa crucifixion, Jésus confirma que la Nouvelle Alliance était basée sur son sang. Matthieu 26, verset 28, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Alors, tous les objets et les ustensiles du tabernacle étaient souillés par l'usage des hommes pécheurs. Ils se devaient d'être purifiés par le sang des animaux qui était le symbole du sang précieux de Christ. Alors, on se souvient que les Écritures nous disent que c'est l'âme qui pêche qui mourra, dans Ézéchiel 18-20. Dans Ecclésias 7-20, ça nous dit « Non, il n'y a point sur la terre d'homme qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. » Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de l'ensemble de ce qu'on a regardé ce matin? Il est absolument impossible pour tout homme de connaître le pardon de ses péchés, le salut et la vie éternelle s'il rejette le sacrifice de Christ. Bien important de saisir ça. Quelles sont les applications qu'on peut faire du texte d'aujourd'hui? Le salut des élus de Dieu est basé sur l'alliance trinitaire de rédemption. La personne et l'œuvre de Christ sont la garantie sûre et solide de son accomplissement parfait. Il va rendre à terme ce qu'il a commencé. Comme c'est bon de savoir ça. Quand Dieu commence une œuvre, il la rend au bout. Deuxième chose, étudions davantage les Saintes Écritures et cherchons en elles la glorieuse et merveilleuse personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le thème, le fil conducteur et l'accomplissement de toutes les promesses divines. Si vous voulez comprendre l'Ancien Testament, il y a une clé, c'est Christ. Si vous ne tournez pas la clé de Christ dans l'Ancien Testament, vous ne comprendrez absolument rien. La première fois que j'ai lu la Bible, je n'ai rien compris. Mais à partir du moment que tu comprends que c'est Christ qui est la clé, tu cherches Christ partout parce qu'il est partout. Il est le thème, le fil conducteur de toutes les Écritures. Troisièmement, implorons l'Éternel de nous ouvrir l'intelligence et de nous éclairer davantage sur ce que les Écritures elles-mêmes dans Éphésiens appellent les richesses incompréhensibles de Christ. On n'aura jamais fini d'étudier les richesses. Incompréhensible, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le comprendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas le comprendre exhaustivement. Peu importe comment vous passerez d'années à étudier les Écritures, comment vous passerez 24 heures par jour à étudier les Écritures, vous allez découvrir de plus en plus de belles choses sur Christ, mais vous aurez jamais, vous vous rendrez jamais au bout. Et ça dit aussi dans le même passage, et sa sagesse infiniment variée. Quand on prendrait les Écritures et on regarde de quelle façon le Seigneur a voulu enseigner sur son Fils, de toutes sortes de manières, par toutes sortes d'images, d'ombres et de choses, tout parlait de Jésus-Christ. Que le Dieu trinitaire soit béni, loué et adoré pour l'œuvre de rédemption. Amen.